Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il avait tout du type honnête, sympathique, il n'était pas bling-bling.
Il s'arrangeait juste pour toucher une commission sur une transaction, et d'ailleurs peut-être sur plusieurs transactions.
C'est un scénario digne d'un polar, façon criminel en herbe, avec en acteur malheureux un grand groupe minier français. Et à la clé, plusieurs millions d'euros évaporés dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale Léontech. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Faut distinguer, il y a les acheteurs et les espionneurs, les gourmands et les indigents. Il y a ceux qui me font confiance et il y a ceux qui me soupçonnent. Parce que si vous voyez pas la valeur de ce qui est là, vous êtes pas des clients les mecs, vous êtes des petits voleurs à la tire. Regardez-moi cette marchandise, ça éclate plus qu'un clair de lune ou un rayon de soleil ou qu'une pute sous un réverbère.
En 1998, sortait au cinéma le film « Arnaque, crime et botanique » réalisé par Guy Ritchie avec Jason Statham, révélé ensuite par le film « Transporteur » mais aussi par celui plus angoissant « En eau trouble ». L'acteur britannique n'a rien à voir dans l'histoire dont on va parler aujourd'hui dans la story, mais sa filmographie est presque un résumé de l'escroquerie dont a été victime le groupe français Eramet. Il est question d'arnaque, d'eau trouble et même de botanique. Bonjour Laurence Boisseau.
Bonjour Pierrick.
Journaliste au service marché des Échos. Et bonjour Isabelle Couet.
Bonjour Pierrick.
Enquêtrice aux Échos. Alors, tout commence fin 2021 dans les bureaux d'Eramet à l'heure de faire les comptes de l'exercice finissant.
Oui, alors nous sommes 10 jours avant Noël 2021. La direction de Metal Securities, qui est l'entité qui gère la trésorerie du groupe Eramet, fait une sombre découverte. En passant certaines transactions en revue, elle s'aperçoit que 45 millions d'euros sont partis en fumée. Alors c'est la panique, au 10 boulevard de Grenelle. 45 millions, c'est presque l'équivalent du bénéfice du premier semestre 2021. Eramet, qui est coté en bourse, est obligé d'informer rapidement le marché. Le 21 décembre, un communiqué de presse est publié. La direction du groupe indique qu'une fraude financière a été identifiée, des enquêtes ont été diligentées et elle ajoute qu'Eramet va porter plainte auprès des autorités et que le groupe a pris les mesures disciplinaires d'effet immédiat à l'encontre du personnel identifié. En clair, un employé soupçonné de fraude a été licencié pour faute grave. Tout ça en moins d'une semaine.
En moins d'une semaine et 45 millions évaporés, Laurence, Eramet, c'est pas n'importe qui, on parle quand même d'une des grosses entreprises cotées en France.
Oui, alors Eramet, c'est un groupe minier et métallurgique mondial qui est détenu par la famille Duval à hauteur de 36% et par l'État français à 30%. Eramet fait partie du SBF 120, donc l'indice boursier qui regroupe les 120 premiers groupes cotés français. Il a une capitalisation boursière de 1,9 milliard d'euros. Et à l'époque des fêtes, donc en décembre 2021, Christelle Bory a été reconduite à la tête du groupe pour 4 ans. Mais sa reconduction n'a pas été un long fleuve tranquille. Christelle Bory a vécu quelques mois auparavant une crise de gouvernance importante. La famille Duval a tenté de la remplacer, mais l'État a tenu bon et les actionnaires ont fini par trouver un terrain d'entente.
Une affaire embarrassante qui arrive à un moment délicat pour la direction d'Eramet. C'est un coup de tonnerre. Alors que le groupe retrouvait enfin le soleil, c'est ce que vous écrivez dans votre enquête à retrouver sur leséchos.fr. L'impact sera à peine visible sur le cours de bourse de l'entreprise, qui va même connaître une hausse considérable au courant 2022. L'action va passer de 72 euros mi-décembre 2021 à 160 euros en mars 2022. Le groupe profite alors de la frénésie spéculative qui touche le nickel, l'une de ses principales productions.
C'est un classique.
Nickel.
Qu'est-ce qu'il a dit? Nickel.
L'impact financier de la fraude sera limité, hein, c'est ce que promet alors le groupe qui a diligenté des enquêtes. Isabelle, que découvre-t-il ?
Alors, c'est en passant au peigne fin les mails et les ordres passés par un employé qui était absent que le groupe a identifié cette fraude. Et celle-ci remonte à plusieurs années, à mars 2018 exactement. Elle a été commise par un salarié qui avait pour mission de placer la trésorerie du groupe au sein de cette équipe de 10 personnes seulement qui travaillent pour Metal Securities, donc à l'entité trésorerie. Alors normalement, le métier d'un trésorier, c'est de réaliser des investissements ultra sûrs. L'argent de l'entreprise est souvent placé sur des comptes à terme. Ça rapporte peu, mais les risques de perte sont minimes. Mais ce n'est pas du tout la ligne suivie par le trésorier d'Eramet. Lui, il fait un placement non autorisé et falsifie l'intitulé d'une transaction pour faire croire qu'elle est sans risque. Il mise en fait 50 millions sur un produit structuré indexé sur la dette d'une entreprise et la catastrophe, le produit fait défaut et 45 millions sont ainsi perdus. Alors le trésorier ne dira jamais rien à sa direction, le Covid a peut-être aidé, en tout cas, la perte est restée cachée jusqu'en décembre 2021. Eramet a demandé à un cabinet privé de mener une enquête approfondie, mais ses conclusions ne seront jamais dévoilées. Et suite à la découverte du trou de 45 millions, le groupe a aussi porté plainte contre X, en mentionnant à la fois le salarié et une firme suisse qui a vendu le produit structuré et a permis au trésorier d'empocher 850 000 euros, selon nos informations.
Et on va revenir effectivement sur cette société suisse qui est aussi au cœur de scandales qui touche Eramet. 2 ans après la découverte des faits, l'Office central de répression de la grande délinquance financière a rendu ses conclusions. Elle a un suspect, alors on va l'appeler Frédéric, pour des questions de respect de la présomption d'innocence, forcément, il y a le droit lui aussi. Laurence, qui est-il ?
Alors Frédéric, il travaillait donc chez Metal Securities, donc la filiale qui gérait les excédents de trésorerie d'Eramet. Il a une trentaine d'années, il a été embauché en 2015, donc il est là depuis quelques temps déjà. Il est suspecté parce que, en fait, il ne vient pas travailler le 13 décembre au matin et il ne vient pas pendant plusieurs jours. Et Eramet n'a aucune nouvelle de lui. Alors, le groupe finit par prendre le contrôle de son ordinateur et là, découvre, donc après quelques recherches qui ont duré un certain temps, qu'il avait investi dans un produit risqué et donc qu'il avait perdu les 45 millions d'euros.
Bon Fred, j'espère que tu as pensé à prendre des petits cailloux pour retrouver ton chemin. Parce que, à mon avis, t'es plutôt mal parti. Bah, t'es passé où, Fred ?
Mais où est passé Frédéric ? Pourquoi est-il absent alors que le poteau rose n'a pas encore été découvert ? Et non seulement il est absent, mais il ne répond pas non plus à son téléphone. Isabelle, où est-il passé ?
Alors c'est à peine croyable, mais si Frédéric ne donne plus de nouvelles et ne répond pas aux appels de sa direction, eh bien c'est parce qu'il a été placé en garde à vue. Son interpellation le 13 décembre n'a rien à voir avec ses agissements au sein d'Eramet. C'est ça aussi qui est assez incroyable. C'est en fait une affaire de trafic de cannabis et de blanchiment d'argent qui a conduit la police jusqu'à lui et à d'autres individus originaires d'Évreux. Alors Frédéric est placé en détention sous mandat de dépôt et devra attendre juin 2022 pour être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Alors le coup de filet dans lequel il est mêlé défraie vraiment la chronique. On a retrouvé des articles, et notamment ce gros titre dans le quotidien Paris-Normandie qui dit « Plus de 2 millions d'euros en liquide, 284 kilos de cannabis et des armes de guerre saisies dans l'heure ».
Il n'était pas au bureau car il était en détention sous mandat de dépôt. C'est un peu la French Connection à Évreux. En décembre 2023, 2 ans après son interpellation, Frédéric passe devant la cour d'appel de Rouen. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 10 000 euros d'amende. Il a en effet été reconnu coupable de complicité de détention et transport illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de produits provenant d'infractions en lien avec les stupéfiants. C'est vrai que c'est un scénario pour le cinéma. Laurence, la question qu'on se pose en vous entendant toutes les deux, c'est comment ce personnage aux fréquentations douteuses a pu rentrer chez Eramet, une grosse entreprise du SBF 120.
Mais en fait, il a donné le change pendant des années. Il avait tout du type honnête, sympathique, il n'était pas bling-bling. Il venait en Vélib ou avec son propre vélo ou en trottinette au boulot. Et il avait les diplômes adéquats, il a un master de Paris Dauphine et il avait déjà travaillé dans des grandes banques françaises.
Un CV impeccable pour cet emploi au sein du service gestion de trésorerie d'Eramet. Personne n'avait le moindre soupçon à son égard. Il avait tout du type honnête et sympathique, vous a déclaré un ancien collègue. Pensez donc qu'il avait même troqué son 4x4 tape à l'œil contre un Vélib.
Il est à vous le 4x4 gris.
Ouais. C'est une location, ouais, quoi.
Écoutez, c'est trop marrant. Ouais. Parce que jadis, j'avais un 4x4 noir.
D'accord. C'est assez marrant. Merci.
Frédéric est donc de nouveau dans le viseur de la justice. Il est soupçonné d'être responsable de ce trou de 45 millions d'euros. Justement, Isabelle, comment s'y est-il pris pour perdre tout cet argent ?
Alors, à l'origine, évidemment, il n'avait pas l'intention de perdre l'argent de son entreprise. Il s'arrangeait juste pour toucher une commission sur une transaction, et d'ailleurs peut-être sur plusieurs transactions. Le produit financier qu'il a choisi alors est indexé sur la dette de la maison mère de Casino. Casino, c'est le groupe qui détient Monoprix, Franprix et dont on a beaucoup parlé. Il était écrasé sous les dettes d'une pyramide de holding et vous savez qu'il est en train d'être cédé à Chretinsky. Alors en grande difficulté, la société mère arrête de rembourser ses dettes en mai 2019 et se place en sauvegarde. Alors pour les détenteurs d'obligations ou de titres indexés, eh bien ça veut dire qu'ils subissent une perte de 87,5%.
Et s'il est allé chercher ce placement risqué, parce qu'en 2021, Casino ne se portait pas déjà très très bien, c'est vous le disiez Isabelle, c'est ce que vous avez découvert en enquêtant avec Laurence, il a touché une rétrocommission, c'est ça ? Il a touché de l'argent ?
Exactement. En fait, en choisissant un placement risqué, mais en l'inscrivant en placement non risqué dans les comptes de son entreprise, ça lui permettait de capter une rétrocommission.
Laurence, Eramet n'y a vu que du feu ?
Oui, Eramet n'a rien vu du tout pendant plus de 3 ans. Alors, dès le début, Frédéric a maquillé l'opération dans les systèmes d'Eramet. Il a commencé par inscrire le nom d'un courtier qui lui aurait vendu le produit. Or, ce courtier n'a rien fait. Il a également modifié l'intitulé du produit. Donc, il a fait croire que c'était un produit non risqué, qui rapportait autour de 1% par an. Or, ce n'était pas le cas. C'était un produit qui aurait pu rapporter du 7% par an parce qu'il était particulièrement risqué. Est-ce que le camouflage aurait pu durer encore des années si Frédéric n'avait pas été arrêté ? C'est possible. Est-ce qu'il faut se dire qu'il y a eu un manque de contrôle de la part d'Eramet ? C'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, en tous les cas, c'est que le process pour ce genre d'opération dans le groupe minier a totalement été remis à plat ensuite.
Ouais, c'est vrai qu'Eramet, ce n'est pas une banque de financement et d'investissement comme on l'a dans les grandes banques comme la Société Générale ou BNP Paribas. Ils ne s'attendent pas forcément à trouver ce qu'on appelle des rogue traders dans leur effectif.
Non, surtout dans la gestion de la trésorerie d'Eramet, oui.
L'affaire aurait pu s'arrêter là. Un trou de 45 millions, un employé, on va dire, indélicat, qui fait une grosse paume sur un marché financier, qui perd pied jusqu'à ce que le scandale éclate. C'est un classique, finalement, de la finance folle. Mais cette affaire va s'avérer encore plus complexe car il y a un scandale dans le scandale avec un acteur nébuleux, un groupe suisse, Leonteq. Qui est-il et que lui est-il reproché, Isabelle ?
Oui, c'est ce qu'on a découvert. À l'autre bout de la chaîne de transactions, on a cette firme suisse, championne des produits structurés, qui s'appelle Leonteq. Alors elle se présente comme une fintech, c'est très à la mode. Elle est cotée à la bourse de Zurich depuis 2012. Donc, c'est elle qui fabrique le produit que Frédéric va acheter. Alors, première bizarrerie, puisqu'elle fixe un coupon à 1%, alors qu'elle voit bien que le risque est important sur la dette de la maison mère de Casino. Or, plus le risque monte, plus les intérêts doivent être élevés. Et les personnes qui travaillent sur cette opération chez Leonteq, eh bien, en ont conscience, selon nos informations. Deuxième problème, le produit en question n'a pas le droit d'être vendu à un client français. En effet, Leonteq le commercialise via un distributeur qui vient d'agréer et qui se trouve dans les îles Vierges britanniques, autrement dit dans un paradis fiscal, et ce circuit n'est pas autorisé. Or là encore, on sait que chez Leonteq, des personnes ont bien discuté avec l'acheteur d'Eramet, donc ça tend à montrer que les employés de la firme sont complices dans cette histoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé un article du Financial Times, lui sorti en octobre 2022, sur d'autres transactions. Il montrait des pratiques de distribution vraiment frauduleuses. Et puis enfin, dernier élément troublant dans notre affaire, c'est que la commission versée par la firme suisse à ce distributeur, donc dans les îles Vierges britanniques, atteint des niveaux colossaux. 5,5% du montant de la transaction Eramet, soit 2,7 millions d'euros. C'est absolument atypique. Alors la mécanique nous a été expliquée par un connaisseur des marchés. C'est en fait un système de vases communicants. On diminue en fait le coupon qui va être versé au client Eramet et on dégage comme ça une importante commission qui est ensuite redistribuée entre tous les intermédiaires et les complices.
Un paradis fiscal, une entreprise suisse créée par des anciens de Lehman Brothers. Il y a comme une odeur de soufre dans l'air avec des produits structurés qui posent question. Et Laurence, Leonteq est aujourd'hui dans le viseur de la justice.
Alors oui, le gendarme des banques et des assurances français, la CPR, a fait un signalement au parquet. Et ce signalement porte sur des soupçons de blanchiment aggravé de fraude fiscale à l'encontre de la succursale française de Leonteq. Alors, ce signalement, il fait suite à un contrôle début 2023, donc par la CPR, qui a mis en exergue des défaillances dans les procédures de contrôle des clients risqués, c'est-à-dire ceux qui sont justement installés dans des paradis fiscaux. En France, ce n'est pas la première fois que la succursale française de Leonteq fait parler d'elle. Elle a déjà été contrôlée par l'AMF, donc le gendarme boursier, en 2014. Et à l'époque, le gendarme boursier lui avait reproché de ne pas documenter assez les risques des instruments qu'elle commercialisait. Et surtout, étonnamment, il avait pointé du doigt un niveau de marge de distribution très élevé par rapport à la rentabilité offerte à l'investisseur. Et dans certains cas, cette marge dépassait même le niveau maximum de 12% prévu par les procédures. Le rapport de l'AMF avait également pointé du doigt le fait qu'il y ait eu des écoutes téléphoniques qui avaient révélé qu'un chargé de clientèle chez Leonteq était prêt à aider un conseiller en investissement à cacher sa marge à l'investisseur final. Alors, récemment aussi, en Allemagne, la BaFin, donc le gendarme boursier allemand, a adressé à Leonteq un carton rouge pour ses lacunes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et c'est pas tout. La FCA, donc le gendarme anglais, a récemment rappelé à Leonteq qu'elle ne pouvait traiter qu'avec des clients autorisés. Ce qui sous-entend que ces modes de commercialisation en Grande-Bretagne sont parfois un peu limites.
Alors pour l'instant, Frédéric est bien sûr présumé innocent, mais Isabelle, y aura-t-il un procès autour de cette affaire qui a entaché la réputation d'Eramet ?
Alors c'est désormais au juge de décider qui poursuivre et sur quel grief précisément. On ne sait pas encore si la voie du procès sera choisie, mais c'est tout à fait plausible. Et ce qui est certain, c'est que Frédéric le Trésorier est donc évidemment en première ligne.
Et au-delà d'un éventuel procès sur l'affaire Eramet, suite au signalement du gendarme bancaire, la CPR, la justice française va aussi se pencher sur les pratiques de Leonteq France. Merci Laurence Boisseau et Isabelle Coué de la rédaction des Échos. Votre enquête est disponible sur leséchos.fr. On va vous mettre le lien d'ailleurs dans le descriptif de l'épisode. Cet épisode de la story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur abonnement.leséchos.fr/la story.
On se lance, on achète, il n'y a pas de problème, c'est pas des trucs volés. C'est juste des trucs pas payés et on pourra pas en avoir parce qu'ils ont changé leur putain de serrure.